Non, mais c'est quoi cette république bananière où on ramasse les recalés du suffrage universel pour former un nouveau gouvernement? Raffarin, Fillon, Copé, Douste-Blazy, Darcos, Rusnak et la suite, ils ont tous été battus et désavoués dimanche par les électeurs. Et trois jours après, les revoilà comme si de rien n'était aux affaires pour poursuivre la même politique, grosso modo. Si c'est comme ça qu'on espère inculquer la démocratie aux jeunes et contrer le vote du FN, c'est réussi. Ça sert à quoi qu'on vote? On les chasse par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et en plus, ça vient se féliciter sans rire du sursaut civique des Français et du recul de l'abstention. Bravo. Allez, salut. Et bon courage pour la suite, je crois qu'on va en avoir besoin. C'est Jean-Pierre de l'Hérault.
Salut mon cher Daniel. La constitution de la 5ème République voira la coupe jusqu'à la lie. Elle est née d'un coup d'État, plus exactement d'un chantage au coup d'État. Elle est née dans les affres et souffrances. Elle disparaîtra de la même façon par la rue. Il est impensable que le peuple soit bafoué dans sa souveraineté. Le vote de dimanche dernier conduisait nécessairement à la dissolution de l'Assemblée nationale, à de nouvelles élections et de deux choses l'une. Où la Chambre sortait identique et Chirac pouvait rester en place, où la Chambre prenait la couleur de l'opposition et dès lors c'était le président de la République qui devait démissionner. Ce n'est pas du tout ce schéma que nous entreprenons. C'est le prince qui n'est plus à Versailles mais qui est à l'Élysée, avec son conseil, ses courtisans et sa cour. Faut-il rappeler à nos auditeurs que le peuple français est allé à Versailles un 17 juin 1789 chercher le roi, la reine et le dauphin? Et que ça pourrait bien se reproduire. Je pense d'ailleurs que si le peuple n'a pas la parole par les urnes et s'il n'est pas écouté, eh bien il ira dans la rue. Et ainsi finira la constitution de la 5ème République, ce qui n'est peut-être pas un mal en soi. Voilà.
Pouvez-vous nous donner des nouvelles de messieurs Thibault CGT, Mailly FO et Annie Coupé Sud? Chérec, lui, en théorie, il collabore. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont en vacances? Ils ont mal à la gorge? Ou sont-ils très affairés à faire les banderoles? En tout cas, ils sont un peu muets. Ils n'appellent pas beaucoup leurs troupes. Allez, eh bien, au revoir. Et puis, c'est un peu... Oui, j'ai un peu honte après les émissions sur le Rwanda. Mais bon, il faut s'occuper de ça aussi. Merci, au revoir.
Voilà un message pour les personnes que ça intéresse et qui habitent la région. Alors, Christian de Montlibert va faire une conférence débat sur la violence du chômage. Ce sera le vendredi 2 avril, donc après-demain, à 20h, à l'université Marc Bloch de Strasbourg, dans l'amphithéâtre 2, 22 rue Descartes. Alors, le vendredi 2 avril, 20h, université Marc Bloch à Strasbourg, l'amphi 2, 22 rue Descartes. Voilà, bonne route à toute l'équipe, c'était Muriel de Strasbourg, au revoir.
Oui, salut Daniel, Attaque 49 et G10 Solidaire invite tout le monde à une soirée ce jeudi 1er avril à 20h30, à la Maison pour tous de mon plaisir à Angers, 3 rue de l'Écriture, soirée sur le thème de l'assurance maladie et hôpital 2007. Alors la réforme de l'assurance maladie, réforme entre guillemets, prévoit d'être le grand chantier de ce printemps. Pour pas vous faire enrober par les soi-disant considérations sociales de ce nouveau gouvernement Raffarin 3, vous êtes donc invités à cette soirée organisée par Attaque 49 et G10 Solidaire. Salut.
À toi, Valentine. Tu t'es tue, cachée sous des corps déchirés, entourée de crânes aux yeux vides de sens. Tu t'es perdue dans ce vaste champ de mort. Innocent enfant à qui la faucheuse a oublié de laisser son voile. Mais tu es là, et ta voix, Valentine, a déjà traversé les étoiles. Olivier, petit message pour toi, Valentine, petit message.
Voilà, j'écoute tes émissions là sur le Rwanda. Il y a une chose qui me semble incompréhensible, c'est qu'on n'explique pas pourquoi ils se sont déchaînés comme ça, pourquoi il y a eu tant de massacres, quelles sont les vraies raisons, comment ils ont accepté de tuer comme ça, qu'est-ce qui les a conditionnés. Ce que je voulais dire, c'est que en traitant le sujet sans donner d'explication, j'ai peur que ça donne des arguments aux racistes en disant qu'ils sont pas comme nous, ces gens-là, qu'ils tuent n'importe comment, pour n'importe quoi, sans raison. Et ça me semble un petit peu grave, quoi. Voilà. Merci. Au revoir.
Oui, je crois qu'on donne, on essaye de donner des raisons, d'expliquer évidemment qu'il n'y a pas une bestialité ni une sauvagerie exclusive au Rwandais, ni même à l'Afrique, bien évidemment, on a dit et redit, mais vous étiez peut-être, chère auditrice, un peu distraite, que le génocide du Rwanda était une affaire absolument moderne, absolument contemporaine et tout à fait comparable à eh bien au génocide des Juifs et des Roms ou à ce qui s'est passé également à la même époque d'ailleurs en Yougoslavie. Donc l'ordinaire aptitude humaine à une extraordinaire inhumanité n'est évidemment pas un monopole des Africains, ni des Rwandais, ni même des Hutus. Mais soyez patiente, on peut pas expliquer tout d'un seul coup. Il faudra aussi expliquer comment, qu'est-ce que c'est que les Hutus, qu'est-ce que c'est que les Tutsis, comment on a présenté ces deux groupes comme des ethnies, comme des tribus, comment on est passé d'un antagonisme social à un antagonisme racial et qui a opéré cette mutation, la colonisation, les missionnaires, les pères blancs notamment, c'est-à-dire l'Église catholique. Tout ça, eh bien, on va l'expliquer dans les émissions qui viennent. Mais c'est vrai que c'est un... Il faut absolument insister, il n'y a rien là qui ne soit pas moderne. D'autant plus que un génocide, puisqu'il y a génocide, il y a eu génocide au Rwanda, et je mets génocide pour ma part au singulier, il y a eu un génocide, et non pas des génocides au Rwanda, eh bien le génocide est une affaire d'État. Pour qu'il y ait génocide, il faut qu'il y ait État, il faut qu'il y ait mobilisation de tout l'appareil d'État. J'ai oublié que le Rwanda est toujours d'ailleurs un État très construit, très administré, très organisé, jusque dans le moindre détail, dans la moindre maison, dans la moindre parcelle. C'est un pays organisé, c'est à cause de cette organisation étatique que ce génocide a pu se produire, et avec la terrifiante efficacité qu'on lui connaît aujourd'hui. Donc vous avez compris, on continue cette série Valentine Rwanda. Merci pour tous vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, dont celui-ci.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Fadila de l'Essonne. Voilà, hier, en écoutant ton émission sur le génocide du Rwanda, j'étais mal, très très mal, et la chair de poule m'a pas quitté tout le long de cette succession macabre. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui je ne t'écouterai pas, que je ne pourrais pas t'écouter, mais je l'ai fait, pour ne pas me voiler la face devant l'horreur de ce monde. Un mot m'a frappé dans ces témoignages. Les assassins, en allant tuer, disaient qu'ils allaient travailler, et ce mot « travailler » m'a rappelé un autre massacre. D'autres massacres. Ceux de Ben Salah, de Ben Imsous, de Raif et d'autres hameaux de l'Algérie des pauvres. Là-bas aussi, les égorgeurs islamistes ou militaires disaient qu'ils allaient travailler. Leur travail était d'assassiner. Travaille tranquillement, on a tout le temps, disaient-ils. Au-delà du nombre, 1 million pour le Rwanda, 200 000 pour l'Algérie. La manière de faire est similaire. Et comme au Rwanda, en Algérie aussi, on nous a demandé de pardonner aux tueurs, d'apprendre à vivre au milieu d'eux. On a appelé ça la concorde civile. Vivre au milieu des égorgeurs, comme si de rien n'était, comme si c'était des chiens qui avaient été tués. Les gouvernants occidentaux nous demandent de tourner la page, de pardonner aux génocidaires. Mais a-t-on demandé aux Français de pardonner aux bourreaux d'Oradour-sur-Glane? S'il faut pardonner aux assassins, pourquoi alors un Nuremberg pour les tueurs nazis et la Cour internationale pour les assassins serbes? Ou alors, ce qui est valable pour les citoyens occidentaux ne le serait pas pour nous autres, nègres et bougnoules. À nous, pas de justice. À nous, on nous demande de vivre au milieu de nos assassins et de tourner la page. Peut-être parce que derrière ça, il y a l'idée souvent répandue en ces terres de civilisation de l'homme blanc que ces massacres ne feraient que confirmer que la barbarie serait un trait de notre culture. Nous serions des assoiffés de sang. On s'entretue, on s'entre-dévore comme des animaux sauvages. Mais nous serions sans doute moins barbares si dans nos terres où coulent maintenant des fleuves de sang n'avait jamais coulé l'or noir, et si au Rwanda avait brillé le sorgho à perte de vue au lieu des diamants. S'il n'y avait pas eu ces richesses dont de toute façon les peuples ne profitent pas. Peut-être, oui peut-être, nous n'aurions pas eu des corrompus fantoches au pouvoir. Nous n'aurions pas eu des relations diplomatiques très spéciales. Nous n'aurions pas eu des manipulateurs et des fauteurs de guerre et de génocide. Cher Daniel, continue à dénoncer ces choses laides et si moches qu'il y a en l'humanité. Et aussi les choses belles qui lui restent encore et qui nous fait garder espoir en elle. Merci et à bientôt.
Merci de ce témoignage. Je voudrais simplement dire une toute petite précision. Quand on emploie le mot génocide, il faut y faire très attention. C'est le crime des crimes. Et le génocide, qui, comme le disait notre ami en 1995, Charles Boutaret, disait le génocide est un crime qui ne vieillit pas, ne peut pas être mélangé avec des massacres ou des crimes contre l'humanité. Hélas, nous devons, si nous voulons nous donner la moindre possibilité de fabriquer de l'évitable face à ces crimes, les différencier, les distinguer et leur donner à chacun sa particularité historique, politique, sociale, etc. Et puis, plus précisément, concernant le Rwanda, il n'y a aucune ressource au Rwanda. Il ne faut pas confondre avec le Congo voisin, ou au contraire, alors là, c'est un scandale géologique, comme on dit, mais au Rwanda, pas plus d'ailleurs que dans le petit état voisin, le Burundi, il n'y a de ressources. Il n'y avait pas dans le soutien, par exemple, que la France a apporté aux génocidaires, nous en reparlerons dans les émissions à venir, il n'y avait pas d'objectif d'intérêt comme on peut y en avoir évidemment dans votre pays, en Algérie. C'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit. Allez, en route. Ouais, j'ai juste une question à vous poser à tous les deux. Moi, je suis venu ici il y a 10 ans. J'étais avec d'autres journalistes et avec des militaires du FPR. On a été les premiers à arriver ici le 24 mai 1994. Mmh. Il y avait des cadavres partout. Il y en avait dans l'église, il y en avait ici, 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 là, et après, des montagnes de cadavres. Là-bas, dans la cour, dans les cadavres, on a vu un enfant qui bougeait encore, qui était encore vivant. Cet enfant, c'était une petite fillette de 13 ans qui s'appelle Valentine. On l'a sortie de là. Mmh. C'est la seule survivante du massacre de Nyarubuye. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous pourriez venir en face d'elle, la regarder dans les yeux comme ça, et lui dire pardon?
Rien.
Non.
On ce dont je me rappelle, c'est que les gens qui sont morts, c'était nos voisins, nos amis.
Tous
ceux qui sont morts ont partagé tout. Maintenant, je regrette. Je ne peux pas comprendre ce qui m'a poussé à tuer mon voisin.
Si tu ne l'avais pas fait, si tu avais regardé le responsable et si tu lui avais dit non.
J'ai préféré travailler plutôt que mourir. Gukora, en Kinyarwanda, Gukora, c'est travailler. Mais travailler, à ce moment-là, signifiait tuer.
C'était un jeudi.
Le responsable nous a dit qu'on devait aller à Nyarubuye le lendemain matin.
Est-ce qu'il vous a dit de préparer vos armes?
Il nous a dit d'amener tout ce qu'on avait comme armes blanches. Gourdin, machette, couteau.
parlez pas des massacres. Il y a eu des massacres considérables au Rwanda.
Pardon?
Il y a eu des massacres au Rwanda.
Quand est-ce que...
Hein, vous l'avez connue?
L'homme aussi.
Elle s'appelle Valentine. Valentine.
Je ne la reconnais pas.
Non.
Non. Peine. Elle est peinée beaucoup, elle a regardé le film.
Hein. Prévisible. Ce génocide était prévisible. Il était organisé. Il a été pensé, conçu, planifié. Rien qui relève de la surprise et de l'accident. Recrutement et entraînement de milices, distribution d'armes, établissement de listes, création de médias particuliers pour préparer au massacre systématique, du discours idéologique à la logistique, tout était en place. La poudre attendait l'étincelle. Armée, police, administration, rien ne vint enrayer la parfaite allégeance de l'encadrement au projet d'extermination. Les opposants furent exécutés dans les premières heures suivant des listes établies. Ceux qui, dans les institutions, tentèrent de s'opposer aux tueurs furent abattus ou bien retournèrent leurs vestes et prirent la tête des massacres. Mais pour réaliser une mise à mort d'une telle ampleur dans un temps si bref, il fallait une main-d'œuvre abondante et présentant toutes les qualités requises. Depuis 2 ans, en utilisant la radio, la propagande jouait sur la terreur et chauffait les esprits à blanc. Satanisation de l'ennemi, nécessité de l'autodéfense, revanche sociale, aucun moyen d'embrigadement n'était négligé, y compris les menaces de mort en cas de refus, y compris l'encouragement au pillage et au viol de masse. Des arguments semés dans un terrain propice, depuis longtemps labouré par la haine et la peur, sans oublier Dieu. Chaque fois que nous nous lèverons, Dieu sera toujours avec nous. Jésus est derrière nous. Nous gagnerons la guerre, pouvait-on entendre sur la fameuse radio des Mille Collines, la RTL M, dans la bouche d'une animatrice, Valérie Bemeriki, en mai 1994. Ainsi, collectivisé, le crime n'est plus un crime, mais une sorte de travail d'intérêt général. Tuer son voisin est une tâche particulière, mais nécessaire. Voilà ce qu'il fallait faire pénétrer dans la tête et le cœur des Hutus du Rwanda. Si nous n'exterminons pas les Tutsis, c'est eux qui vont le faire, écrivait en 1991 le journal Isibo. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ces signes avant-coureurs, ces nombreux signes avant-coureurs n'ont pas alerté davantage le monde, à commencer par les observateurs sur place? Eh bien, on trouve la réponse sous la plume de l'écrivain camerounais Patrice Nganang. Je le cite, « Il y a très peu de pays en Afrique, aujourd'hui, où les conditions d'une violence aussi extrême que celle qui flamba sur les collines des Grands Lacs en 1994 ne sont pas remplies. »
Iyo nibutse mijuru kari yeza biyebuje ndushaho kuhakumbura umutima ugashavura Niji ugu chama uro jitemba matanuchi Hawa jituye mose vahora numune zero Iyo mnijuru unza ora nezerewe Ndirimbi ndirimbocha hamwe na bamarayika Mnijuru nani pubji siya kubitirwa namba Nakwiheba nagusuhuza umutima bigerayo Nambeho nanizuba nakwezi nanumwijima Umucyo wamurikira ni Yesu umwana w'Imana Iyo nibutse mwijuru kali Yesu biyebuje Ndushaho kuhakumbura umutima ugashavura N'igihugu cy'amahoro gitemba amata n'ubuki Abagituyemo bose bahora n'umunezero
Elle parle de la, bon, la nostalgie qui est là, du ciel qu'elle n'a pas encore vu, là où il y a la paix, là où on ne parle pas d'orphelin, là où ne coule que le lait et le miel, là où il va chanter avec les anges.
Non, non.
Valentin vient de me dire qu'elle a quelque chose à vous demander.
Ndashaka ngo uzamfashe kuko uzadufashije nakiriya gasaza kandi kuko turi imfubyi.
Je voudrais que tu nous aides, moi et mon petit frère. Nous sommes des orphelins.
Wenda nk'icyo wadufashisha wenda. Kuduha nk'inka wenda cyangwa
si. Si vous pouvez trouver une vache.
Tu veux qu'on te trouve une vache?
Cyangwa si ihene cyangwa.
Ou bien une chèvre.
Une chèvre ou une vache, tu veux?
Une vache ou une chèvre.
On va essayer de faire ça.
Wenda kaje dufasha mon imyambaro.
Ou bien des habits aussi, parce qu'on ne sait pas où trouver les habits.
On va essayer. On va essayer. Hein? Je te promets qu'on va essayer de trouver des
habits. Parce que quoi je veux, alors il y a des habits qui sont en train de se faire.
Valentine, viens voir. Je te promets qu'on va essayer de te trouver une vache et une chèvre. Je te promets. On va tout faire.
Aussi, il demande aussi une poule.
Encore une plus, et puis quoi encore?
Une poule aussi. Ordinaire, c'est inimaginable. Moi, je me disais que on allait juste apprendre les mortes juste après vous, mais sa photo, c'est émouvante.
Ouais. Alors, ça camaille.
Non, moi, je peux pas supporter la guerre.
Hein? Qu'est-ce que tu dis?
Non, mais j'ai envie de pleurer. Ça me fait vraiment de la peine. Tu comprends?
Quand on la voit, on a de la peine de voir quand c'est bien celle-là.
Voilà, on est en mai 95, on est avec Salvatore, l'ami traducteur, et Sakamai, l'ami chauffeur. Et on est à Niaroubouillé, où on a retrouvé, donc un an après, Valentine, vivante et bien vivante, et qui m'a fait cette demande que vous avez entendue, de lui acheter une, de lui trouver une vache, de lui trouver une chèvre. Et évidemment, c'est bouleversant. Je me suis retourné à ce moment-là vers mes deux compères, Salvatore et Sakamai, certains que eux, qui sont des Africains, des gens du coin, sauront parfaitement comment on s'y prend pour acheter et trouver une vache au Rwanda. Et une fois dans cette
voiture, on aperçoit que ben non, ils n'en savent rien du tout. C'est des gars qui vivent à Bujumbura, sont des citadins, et qui, évidemment, n'y connaissent rien du tout. Mais évidemment, on a une mission à accomplir, c'est de trouver une vache pour Valentine. Pendant le génocide, les vaches ont disparu, ou bien elles ont été vendues, volées, surtout elles ont été détruites et mangées. La vache a une très grande importance au Rwanda, où, comme vous avez vu, évidemment, maintenant, ces vaches ont été popularisées, des vaches avec des très, 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 très grandes cornes, qui ont une signification plus symbolique que de du lait, elle donne assez peu de lait. D'ailleurs, on les croise aujourd'hui avec des vaches de chez nous, des vaches suisses ou normandes, oui, tout à fait. Et donc, c'est tout un symbole. Ça a eu une signification qui serait longue à rappeler dans l'histoire des cours du Rwanda, ces vaches. Et aujourd'hui, toujours, avoir une vache, c'est un signe de beauté, de bonheur, de prospérité. C'est souvent les Tutsis qui aiment avoir des vaches, mais aujourd'hui les Hutus aussi aiment la compagnie de ces animaux qui sont un signe aussi de prestige, de prospérité, etc. Voilà la raison de la demande que Valentine nous avait faite. Et de plus, autrefois dans la tradition, on n'achetait pas une vache. C'était le prince, le roi qui offrait une vache. Donc me demander d'offrir une vache était faire de moi un personnage, de nous, donc des personnages tout à fait considérable. J'ai appris ça par la suite. Et donc nous voilà avec Salvatore et sa camaille sur la route de Kigali. On arrive même à Kigali. Et bon, à défaut de trouver vraiment la vache tout de suite et de trouver chèvre, poule, etc. tout de suite, on va au marché de Kigali déjà pour acheter des vêtements. De lui acheter des vêtements, c'est pas simple. Il faut imaginer à quoi ressemble Kigali un an après. Il y a eu ce télescopage que j'évoquais hier, c'est-à-dire le retour des Tutsis en exil, réfugiés, qui ont gagné, et cette victoire aussi de leur armée du FPR. Donc cet élan, cette victoire, et puis les rescapés, les gens qui, les survivants absolument sidérés, errants. Dans ce pays, alors ça sent le cadavre, ça sent la mort, mais aussi il y a des fêtes, on boit de la bière et on danse très tard. Voilà, c'était ce télescopage terrible qui régnait sur Kigali en ce printemps de 1995. On est sur le marché de Kigali. Marché aux fripes parce qu'on est en charge des vêtements pour... Ah, c'est joli ça. Pour Valentine, c'est des vêtements pour Valentine. C'est joli ça. Il y a des jupes, là il faut pas acheter de pantalon parce que comme elle est à la campagne, on peut pas acheter de pantalon, ça se fait pas. Voilà, c'est tout là. Ça, c'est joli ce rouge là, non?
J'ai l'impression que c'est assez large.
Mais dis donc, mais elle est mince, hein, elle est jeune. Elle est mince, Valentine. Comment on fait pour trouver quelque chose qui... Ah, il y a les belles robes rouges, là, dis donc. Ça, c'est beau, hein.
C'est un peu petit, hein.
Hein?
Parce que dans la rue, il fait froid, mais c'est petit par rapport à Valentine.
Ouais, ça, c'est trop petit pour Valentine. Oh.
Valentine, je crois qu'elle a la même tête.
Oui, comme ça, oui. Comme la fille qui passe, là. Comme ça. On arrête la fille.
Hein?
Hey, plus mince encore. Encore plus mince.
La région, il fait froid. On va essayer de trouver une jaquette pour elle.
Je pense que ça va aller.
Oui, mais ça, c'est clair, c'est salissant.
C'est trop clair.
Regarde, prends quelque chose qui soit.
Ça, mais. C'est trop. Non, non.
Ça, c'est un peu triste quand même, hein.
Ça, par exemple.
Ça.
C'est joli.
Brun. C'est assez épais.
Oui,
c'est Daniel Echter.
Oh, il y a son autre grand tête.
Combien ça coûte ça, madame?
Ah, oui, il y a
des prix pour Muzungu.
Les Muzungu. Les Muzungu, c'est nous, c'est les blancs, effectivement. Dès qu'on voit un blanc, dès qu'on voit un Muzungu, les prix grimpent, sont multipliés par 10 et par 20. Voilà, on est en train d'acheter sur ce marché de Kigali, que nous connaissons bien maintenant, presque familier. Et on va ensuite rencontrer une femme tout à fait étonnante qui s'appelle Daphrose. Daphrose, mai 1995. Elle habite dans le quartier de Nyamirambo à Kigali. Et cette femme a une histoire, j'allais dire une histoire extraordinaire. Je pense que la première fois que je vous ai fait entendre le témoignage de Daphrose, j'ai dû dire ça. Une histoire extraordinaire. C'était méconnaître le drame du Rwanda. C'était en méconnaître l'étendue, le nombre de aujourd'hui d'hommes, de femmes et d'enfants qui dans ce pays sont porteurs de cette douleur, de cet effroi qui ne vieillit pas. On entre chez Daphrose ce jour-là, une petite courette, une porte qui s'ouvre, une maison, une pièce absolument vide et une femme assise. Je la revois comme je vous vois en ce moment. Daphrose assise, bien avec sa petite robe comme ça qui repousse, vous savez, sa robe sur ses genoux, qui me regarde droit dans les yeux et qui nous parle.
Il y a une vingtaine de personnes, ou même 30, qui sont venues avec des machettes, des lances, des couteaux, des grenades. Ils sont venus, les deux enfants. Ils les ont sortis de la maison de leur cachette. Ils ont poursuivi et l'une a été blessée. On l'a laissée à moitié morte. On a poursuivi le garçon et on a pu l'atteindre. On l'a tué avec des coups de machette. On l'a mis dans un trou. Et après une heure, le garçon a pu sortir du trou. Il était blessé, il était plein de sang. Et il a pu sortir du trou. Le voyant, ils ont poussé des cris. Les inérables ont poussé des cris. Ils sont revenus, le retirer.
Et vous étiez où? Vous avez vu ça?
Moi, j'ai vu ça. J'étais cachée avec les enfants. On les a sortis. J'étais dans une autre chambre. J'écoutais, je voyais par une petite fenêtre. On les a poursuivis. Mais j'ai entendu les cris des enfants. Je ne savais rien faire. Je poussais des cris sourds.
Voilà le début du récit de Daphrose. Avec son langage, avec ses mots, à elle, c'est de ses enfants dont il est question. C'est de ses propres enfants dont il est question. Daphrose était à l'époque enseignante. Elle est Hutu, mais son mari est Tutsi. Et au Rwanda, c'est la patrilinéarité qui compte. C'est-à-dire que les enfants ont l'identité, l'ethnie du père. Il faut rappeler une chose quand même, c'est que l'ethnie, la mention ethnique figure sur les cartes d'identité depuis 1931. C'est quelque chose qui a été imposé par le colonisateur belge et qu'il a fallu ces génocides pour que l'ethnie, la mention ethnique disparaisse des cartes d'identité. En 1994, au Rwanda, la mention ethnique, c'était comme l'étoile jaune pour les Tutsis. Daphrose est Hutu, et voilà cependant ce qui lui est arrivé.
Il disait que c'était des vipères, que c'était des serpents qu'il fallait quand même les tuer et les écraser.
Qui c'était ces inérables? Vous les connaissez?
Je les connais. Ce sont la plupart sont des élèves qu'on a enseignés, sont des élèves de 18 ans, 20 ans, comme ça. Je les ai eus dans ma classe. Bon, ils criaient, il faut tuer les serpents, il faut nettoyer. C'est comme ça qu'ils disaient. Et puis, le 11 mai, on a eu encore une deuxième attaque. Et encore une fois, par les Interahamwe, j'étais avec ma gamine qui a survécu. C'était une quarantaine. Nous sommes sortis, nous ont demandé de l'argent. On n'avait pas d'argent pour qu'on puisse donner, nous laisser. Bon, on me disait de tuer l'enfant, ma fille. On me donnait un marteau, on me donnait une machette en disant, allez, tue d'abord ta fille pour qu'on puisse aussi te tuer en dernier lieu. Moi, je me leur disais que je n'ai pas de courage de tuer ma fille. Bon, nous a conduit.
Et ça, c'était. Ceux qui vous conduisaient, c'était vos élèves.
C'était les Inéramoué. Hein?
Oui, mais ces Inéramoué, c'était vos élèves. Vous les avez eus à l'école.
Nous les avons vus à l'école. Ils sont assis devant nous. Il y avait un qui s'appelait Claver, un autre qui s'appelait Célestin. Ils nous ont conduits, ils étaient beaucoup, on avait peur même de les regarder, mais on connaissait vaguement les visages. Ils nous ont conduits autour des cadavres, là-bas. Donc, on a pu échapper à la mort parce que il y avait quand même des amis qui nous ont pleuré, ils ont donné 15 000 francs, ils nous ont laissés. On ne nous a pas tués ce jour-là.
Autour de ce trou des cadavres, on tuait les gens toute la journée.
Ah oui, oui, on tuait les gens. On tuait les gens au cours de la journée. Il y avait des cadavres. Et d'un jour, il y avait des enfants, il y avait des vieilles, il y avait même des bébés de 6 mois. Dans ces trous, on les voyait. Bon, il y a quand même les gens qui disaient qu'il ne fallait pas tuer... disait, mais on a tué, il faut laisser un ou deux personnes pour raconter ce qui s'est passé. Bon.
Et vos enfants, vous savez où ils sont?
Mes enfants sont dans un trou quelque part. Mon fils est né âgé de 15 ans. Il est dans un trou qui se trouvait sur une route d'Andorra. Je connais où c'est. Mais je n'ai pas le moyen pour enterrer les restes, les os. Mais mes deux garçons, mes deux jeunes garçons, sont dans un trou où il y a plus de 400 personnes. Et c'est à Gisagara. Mes enfants sont dedans. Il y a beaucoup de monde là-bas dans ce trou. Mon père était Tutsi. Mon mari était Tutsi également, mais j'avais une maman Hutu. Elle a vu tous ses morts devant elle. Elle s'est évanouie. Elle a tendu sa gorge pour qu'on puisse l'enlever. Ils n'ont pas voulu la tuer. Les Interahamwe disaient, toi tu es Hutu, nous n'allons pas te tuer, va chez toi, va dans ta famille. Mais ma mère n'avait pas de courage. Elle a vu les cadavres de son mari, de ses enfants, de ses petits-enfants. Elle a perdu la tête, je ne sais pas là où elle est. Depuis le mois de mai 1994, je ne sais pas là où se trouvait ma mère. Si j'étais dans une rivière, je ne sais pas. Si c'est suicidé autrement, je ne sais rien. Nous n'avons pas de nouvelles d'elle. Elle a été très traumatisée. Voir toute sa famille s'effondrer et à coups de machette, à coups de lance, et rester sans personne, rester sans soutien. On ne sait pas là où elle est jusqu'à présent. Là-bas, on était en vacances. On n'enseignait pas, on était dans les vacances de Pâques. Donc, ils étaient éparpillés. Mais ils couraient avec leur petite machette en disant et nos pères tuent les personnes, mais ils restent à moitié morts. C'est nous-mêmes qui devons les achever. Ce sont les enfants qui achevaient les cadavres, restés à moitié morts. Moi, je les ai vus. Même les enfants de 12 ans ont tué. sont tués, poussaient des cris. On ne pouvait pas se cacher. Même quand on se cachait dans le sorgho, les enfants te voyaient, ils poussaient des cris. Ils venaient, te disaient, donnez de l'argent, ma maîtresse, donnez de l'argent pour que je puisse t'épargner. Un enfant de 12 ans te disait comme ça. Donnez de l'argent pour que je puisse t'épargner.
Mais les enfants entre eux, vous dites qu'il y a des enfants à l'intérieur de la classe qui ont... Qui ont
étaient,
qui,
il y avait des Tutsis et des Hutus, mais les Tutsis ont été tous tués.
Par les autres enfants?
Oui, oui, quelquefois. C'était des enfants qui s'entretuaient, ils disaient, toi tu es Tutsi, faut que tu meurs. Les enfants donnaient des coups de pierre de, et sur les autres enfants Tutsi. Et voyant ça, vraiment, j'étais dégoûtée par l'enseignement. Voir qu'on enseigne la religion dans nos écoles catholiques, voir qu'on enseigne des actes de charité, et voir les enfants se massacrer entre, voir les enfants tuer les autres. Même un enfant de 12 ans conduisait une vieille de 50 ans. Il la conduisait au trou des cadavres. Il la mettait là à mort et il retournait au village. C'était comme ça. Et je ne vais vraiment, je n'ai plus de courage de me mettre devant les enfants. Au mois de septembre 94, j'ai quand même fait une tentative de me mettre devant les enfants pour enseigner. Chaque fois que je me mettais devant les enfants, je voyais mes fils, je les interpellais alors qu'ils n'étaient pas là. Et moi, je me disais que quand même, j'allais perdre la tête si je continuais comme ça. Et le 24 avril 1994, se fit la mort de mon père, la mort aussi de mon frère qui s'appelle Eric. Bon, le 26 avril 94, c'est fait la mort de mon frère cadet. Et c'était la mort aussi de mes deux enfants, de mes deux garçons, Théo Brèze et Thierry Dominique. Ils sont morts avec mes cousins, ils sont morts avec mes frères. Bon. Donc, le 27 avril 94, c'est fait la mort de mes tantes. Le 4 mai 94, ce fut la mort de mon fils aîné qui s'appelait Moïse Dieudonné. Bon, le 7 mai 94, ce fut la mort de mon époux qui s'appelait Ntaganzwa Juvenal. Bon, le 11 mai, ce fut une attaque envoyée par le bourgmestre et le député de notre commune pour nous tuer, moi et ma fille.
Million. Entre 500 000 et 1 million de victimes au Rwanda dans l'espace de 100 jours, dans l'indifférence générale de ce qu'on ose encore appeler la communauté internationale. Ce témoignage, celui de Daphrose qu'elle nous avait donné en 1995, on pouvait en entendre des quantités comme celui-là, proches de celui-là. Et aujourd'hui, toujours, évidemment, les survivants, les rescapés sont plombés, chargés d'histoires comme celle-là et espèrent une justice. Mais quelle justice? Qu'est-ce qui pourrait leur rendre apaiser, alléger un peu leur souffrance? Quelle justice quand on sait le nombre de participants à ce génocide? Combien ont participé, ont coupé, comme on disait, ont travaillé, comme on disait? 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 peut-être ont, comme on dit, trempé dans ce génocide. On en reparlera dans les émissions des jours prochains. Pour l'instant, retour à Niaroubouillé, après les courses à Kigali, après avoir trouvé chèvres, poules, etc. Nous revenons au bout toujours de cette piste de terre rouge, dans la verdure et dans ce paysage de pierre. C'est un paysage de pierre vers Niaroubouillé, d'où on a une vue sur la Tanzanie et sur la Kagera, la vallée de la Kagera. On arrive à Niaroubouillé où Valentine et les gens du voisinage, les avoisinants, nous attendent. Voilà l'oncle de Valentine. Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'il va ici tout près. Ils sont là, ils nous attendent ici. Voilà, ils sont tous là. Ils nous attendent ici.
À la maison? Ils sont à la maison?
Oui.
Ok, mais il vient lui.
Il va faire quelque chose, il revient tout de suite.
Ah, ok.
À tout de suite.
Voilà, c'est l'oncle qui était sur le chemin. On va arriver chez Valentine. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, dis donc. Alors là, aujourd'hui, elle a mis la belle robe. Elle a mis la belle robe, hein. Ah, il y a toute la famille qui est là, qui nous attend. Ah. Eh, ça va bien. Ça va bien?
Oui, nous allons.
Bonjour, bonjour.
Ah.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Ça va, Valentine? Bonjour, bonjour,
bonjour.
Voilà les tantes et toute la famille de Valentine. Viens, viens, on va dire à Valentine qu'on a vu son frère. On est allé voir Placide. Et il va bien. Et il vous envoie ses amitiés, ses salutations, et tout va bien. Alors, comment on va faire? Est-ce que tu as trouvé les vaches?
Oui, il y a les vaches, mais ici le prix est... Le prix est, disons, est exorbitant ici. Il y a une vache.
Tu n'en as pas parlé à Valentine encore? Tu n'en as pas parlé?
Non, j'ai déjà parlé à son oncle.
Mais pas,
non,
elle, pas elle?
Non,
ok.
Son oncle.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, ton oncle?
Bon, lui, il demande toutes les trois vaches. Il demande 150 000 francs rwandais.
Alors, il faut discuter avec lui.
C'est qui?
C'est les conseillers même.
Ah, c'est le conseiller lui-même.
Bon.
Alors, combien on achète ces vaches?
On
parle en swahili.
C'est tout à fait. Bah, lui, il me dit que le prix c'est déjà fixé. J'ai dit non, ce n'est pas lui qui achète, c'est nous qui achetons.
C'est nous qui achetons. C'est sérieux, hein? Très très sérieux, la négociation.
Moi je pense que ce n'est pas raisonnable avec le vieux. Je lui pose la question, si on achète une vache, il nous dit à 100 000, il ne peut pas discuter sur ça. Autant rentrer sur Kigali, on saura. Même s'il faut louer une camionnette pour acheter une vache là-bas, on achète, on amène ici. Parce que c'est comme si il nous force.
Il faut qu'on négocie le prix autour de quelle vache, parce qu'il y a une qui est accompagnée. Ouais. Par son petit, laquelle on pèterait même ce soir. Et il y a une autre qui est seule. Hein.
Bon, on veut l'autre avec le petit.
Oui, ils vont fêter ce soir.
Ce soir?
Oui,
c'est sûr.
Si.
C'est sûr, quand ça, on va bien avoir une vache.
Et c'est rare, hein. Ça, c'est un dos rare. Hein.
Oui, où est-ce qu'elle est, la vache? Oui, on est allé. T'as envoyé les petits la chercher, des enfants la chercher?
Oui, on
vous promet d'assurer la protection de la petite que vous venez d'aider. Moi, je suis parent, j'ai d'autres enfants. J'essaierai de la considérer comme ma fille aussi. Je la mettrai parmi les miens
On essaie de la suivre. Mais nous demandons encore une fois que vous continuiez à nous assister de temps en temps, quand c'est possible.
On va essayer.
Je suis
très content.
On
croyait qu'il n'y avait pas de Français qui nous aiment, mais nous constatons qu'il y a des Français qui nous aiment quand même. Finalement, tous les Français ne sont pas Mitterrand. C'est Mitterrand et Habyarimana qui ont tué les populations.
C'est ces vaches-là qui arrivent là. Viens. Hey, ça va. Ah, c'est, elles sont immenses ces vaches. Hein. C'est des cornes, mais je sais pas combien mesurent les cornes.
Ça vaut la peine. C'est celui-là.
On va prendre celui-là
avec, oui, avec beaucoup de taches.
Celle qui a des taches.
Oui.
Avec le veau qui a des taches. Bon, on peut le dire.
Tu vas tirer une photo.
Oh, on peut le dire à Valentine maintenant.
Oui.
Et Valentine, viens voir.
Non, mais il faut au contraire.
Voilà, on va t'expliquer. Salvatore, viens voir. Ça, on te... regarde. Ça, la vache, elle est à toi là-bas. Avec le petit.
Merci beaucoup.
J'étais sûr qu'elle ferait rien. Regarde comme elle est.
Merci beaucoup.
Viens voir. Valentine, viens voir. Ça aussi c'est à toi. Les deux chèvres noires sont à toi aussi. Voilà. Et viens voir aussi, ça regarde les poules. Là les poules sont à toi aussi. Ça c'est à toi aussi. Voilà. Hein? Tiens, ça c'est une radio. Ça c'est pour toi aussi. avec des grosses piles.
Tu vas tirer une photo, je vais le prêcher.
Ouais, je vais faire des photos, t'inquiète pas, on va faire des photos. Ah, ça c'est des habits aussi. Des jupes, des habits, des vestes, enfin tout ça. Voilà. Est-ce que tu sais traire les vaches?
Oui.
Tu sais pas traire?
Je ne sais pas. L'oncle va le faire.
Il faut que tu lui apprennes à traire alors. Ah, avec ses mains, elle peut pas traire. Mais avec une seule main, on peut pas traire?
Il ne pourrait pas, parce que la main gauche, c'est pas fait pour traire. C'est traditionnel tout ça. Elle ne peut pas se servir de la gauche pour des travaux en rapport avec la vache. C'est toujours la main droite.
Donc il faudra que quelqu'un s'occupe de sa vache pour traire.
Oh. Et puis un récipient on le tient comme ça, le récipient, et on est avec la main droite.
Merci aux vaches de cette planète et spécialement à celle du Rwanda. Merci à Valentine, à Dafro, à Salvatore, à Sakamaï et à Madeleine Mukamabano. Technique aujourd'hui, Eric Girard et Henri Bérec. Christophe Imbert, Yann Chouquet, Koye Nguyen et Antoine Chao, c'est l'équipe de La Basse, j'y suis. Guy Vanctil est reporter et a le montage de cette émission. Le numéro du répondeur de La Basse, j'y suis, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et c'est le moment que vous attendez. Et oui, réclame.